Rugby.
Les titres du journal.
Les TPC suspendent temporairement le chantier OMC 2030. La modernisation de la ligne chablaisienne rencontre de nombreuses difficultés techniques, financières et de délai. Le président du conseil d'administration des TPC, Olivier Français, sera en direct avec nous pour en parler. La traite d'êtres humains est une réalité en Valais. Un projet pilote a permis d'identifier 28 victimes en une année et demie. L'État va poursuivre sa lutte. Et en basket, le BBC Monté-Chablais a lancé sa saison sans objectif précis. Et avec l'effectif le plus jeune du championnat, un challenge motivant pour son coach, José González Dantas.
Et pour ce qui est de la météo, eh bien on aura de la grisaille aujourd'hui avec potentiellement du soleil en montagne. Plus de détails sur cette météo en fin de journal. Un journal qui vous est présenté par Anthony Dacampo. Bonjour Anthony.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Les TPC, les transports publics du Chablais, annoncent la suspension temporaire du chantier AOMC 2030. Initié en mai 2025, ce projet de modernisation de la ligne Aigle-Olon-Montet-Champéry, estimé à 210 millions de francs, rencontre des difficultés dans le respect des échéances et du budget initial. Ce report doit permettre une analyse de la situation d'ici le printemps prochain. Pour en parler avec nous, Olivier Français, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du conseil d'administration des TPC. Le chantier AOMC 2030 est retardé. Que se passe-t-il exactement ?
D'abord, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a pris cette décision. On l'a pris de concert avec nos commanditaires. Et au vu des incertitudes qui sont le résultat des travaux qui ont été faits dans les travaux préparatoires, il vaut mieux savoir vers où on va plutôt que de subir finalement un chantier.
Mieux agender le chantier. Vous parlez aussi de réviser le projet. Qu'est-ce qui va changer pour le projet en lui-même ?
Alors, le fond du projet ne va pas changer fondamentalement. L'objectif, c'est de réunir les deux gares et puis d'avoir une réalisation qui soit conforme à nos attentes. Maintenant, il y a une planification qui est complexe. On a eu passablement d'informations, tout le mois de mai aujourd'hui, qui nous font revoir tout simplement la planification. Et une erreur de planification peut avoir des coûts très, très importants. D'ailleurs, nous avons demandé à ce qu'il y ait une revue de projet de la part de personnes tiers pour qu'ils nous fassent une analyse et nous fassent des propositions.
Et concrètement, quels seront les impacts de cette suspension sur les usagers de la ligne AOMC ?
Alors, il n'y a aucun impact sur les usagers. Ils continueraient à circuler comme on circule aujourd'hui. Par contre, l'attente qu'on a pour améliorer tout simplement la correspondance entre la gare CFF et la gare TPC est retardée. En tout cas, de 2 ans, c'est ce qui est à peu près une certitude. En tout cas, d'après les informations qu'on a pu recevoir, mais les usagers n'ont aucun impact à court terme.
Est-ce que vous craignez que ces contretemps financiers et techniques mettent en péril le projet ?
Je crois que nos commanditaires sont clairs, il faut faire ce projet. Maintenant, il faut faire dans les coûts tels qu'ils ont été annoncés. Et s'il y a des modifications de projet, on l'informera. On l'informera à temps. Pour le moment, on garde l'objectif tel qu'il était mis dans la procédure d'approbation des plans en concertation avec l'Office fédéral des transports.
Vous parlez de 2 ans de retard au minimum. Quelles seront les prochaines échéances pour l'AOMC 2030 ?
Alors, à très court terme, c'est faire le choix d'un comité d'experts qui travaille de concert pour nous faire part de leurs observations. Et selon les observations qu'on peut espérer dans l'ordre de 6 à 8 mois, peut-être qu'il y aura une évaluation de projet et c'est à ce moment-là qu'on pourra communiquer.
Olivier Français, on rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration des TPC. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
La commune de Massonger a tenu hier soir une assemblée primaire extraordinaire. Les citoyens ont validé à l'unanimité un crédit de 643 850 francs pour les installations provisoires de l'UAPE, déjà mises en place sous forme de containers. Si leur achat initial respectait les seuils légaux permettant à la municipalité de décider seule, les frais additionnels, notamment pour le parking, le mobilier et les aménagements extérieurs, nécessitaient cette fois l'aval de la population. Une transparence saluée, même si certains habitants ont exprimé le sentiment d'avoir été mis devant le fait accompli, les containers étant déjà installés. Une décision qui permettra donc la création d'un parking provisoire de 24 places en remplacement de celui utilisé pour les containers. En tout et pour tout, le crédit total s'élève à 643 850 francs. 18 mois d'activité, 28 victimes identifiées, c'est le bilan que l'association valaisanne de soutien aux victimes et témoins de traite des êtres humains, l'AVIT, a présenté hier. Avec pour mission de renforcer la détection de victimes sur le terrain, l'association a permis l'identification et l'accompagnement de 28 victimes essentiellement des femmes. Grâce à la formation de 250 professionnels issus de milieux tels que la police, l'asile, la santé ou encore le social, l'objectif de sensibilisation de l'association est atteint. Ces résultats illustrent une réalité qui interpelle. Mathias Reynard, chef du département de la santé, des affaires sociales, de la culture, qui a porté ce projet.
Quand je suis venu avec l'idée de mettre des moyens, de créer une association là contre, on m'a souvent dit « mais ça n'existe pas, on va laisser quoi ton histoire ?» Et en fait, à partir du moment où on a créé l'association, qu'on a mis des moyens, bah comme par hasard, on a découvert énormément de victimes. En une année et demie, on a 28 victimes qui ont été identifiées et soutenues. C'est plus qu'en 10 ans auparavant. Donc on voit bien qu'en fait, l'absence de victimes identifiées, c'est juste l'absence de moyens qui sont mis. Il n'y a pas plus de traite aujourd'hui qu'il y a 2 ans. C'est juste qu'on identifie les victimes et qu'on peut les soutenir. Donc c'est vraiment dans ce genre de domaine où une action politique qui coûte pas hyper cher, qui ne demande pas des gros moyens, mais elle permet de sauver des vies.
Les résultats de cette phase pilote de 2 ans confirment la nécessité de cet engagement que le Conseil d'État a décidé de pérenniser. Il versera environ 280 000 francs par année pour continuer à former des professionnels et sensibiliser à la traite d'êtres humains. Une décision saluée par David Dandresse, directeur de l'AVIT.
Bien sûr, nous nous réjouissons extrêmement de cette décision du Conseil d'État de poursuivre ce qui a été mis en place. Ça a été beaucoup d'efforts sur 1 an et demi, presque 2 ans de travail, pour nous faire connaître par les acteurs du réseau, commencer par la police, la justice, le ministère public évidemment, et puis tous les acteurs de terrain, pour démontrer que nous nous inscrivons dans un tissu de soutien aux personnes qui sont victimes en Suisse, pour une infraction qui est particulièrement lourde et particulièrement compliquée.
Un sujet de Martine Vestinaire.
L'enneigement artificiel entre les Ains et les Mos devrait franchir une nouvelle étape d'ici la fin de l'année.
Après un report en 2024 des 177 canons à neige pour des raisons environnementales, la société des remontées mécaniques TéléML soumettra à l'enquête publique une nouvelle version corrigée du dispositif. Dans cette mouture à 20 millions de francs, la trentaine de kilomètres de conduite qui acheminera l'eau de Longrin vers les enneigeurs demeure, mais les installations respecteront des normes écologiques et territoriales. En accord avec le canton de Vaud et l'association ProNatura notamment, le tracé évitera les zones de biodiversité, alors qu'en parallèle, des mesures de renaturation du parking de l'Arsa ainsi que de la route du camping des Mos sont prévues. Un projet jugé bon et nécessaire par Jean-Marc Udriot, syndic de Lézin et président de la société TéléML.
L'impact écologique pour nous, il est moindre, bien moindre de ce qu'on veut bien dire. Il faut ça pour passer l'histoire de la transition 4 saisons et de la durabilité, et c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas être suspendu à de l'enneigement faible, puis fermé du jour au lendemain parce que vous n'avez que 30 jours d'enneigement. Donc économiquement, c'est ce qu'il faut faire. Et ça nous permettra d'assumer ce qu'on doit assumer, parce que peut-être que dans les accords qu'on peut faire avec des opposants, c'est de dire, ben voilà, on s'engage à horizon 20 ans à démanteler les installations. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais pour ça, il faut que tout le monde soit ouvert à la discussion.
Les anti-canons à neige regrettent la reprise d'un projet dépassé, incompatible avec les enjeux climatiques, et annoncent d'ores et déjà s'y opposer. Pour rappel, l'enneigement artificiel Les Ains Les Mos est pressé par le temps, car les premiers financements cantonaux et fédéraux expirent déjà à la fin 2026. Le changement climatique affecte particulièrement les stations de ski. Face au manque de neige, beaucoup d'entre elles doivent se réinventer. Une conférence sur ce thème avait lieu ce matin à Berne. Le groupement suisse pour les régions de montagne invitait les différents acteurs à réfléchir à de nouveaux modèles. Les résultats du projet international Beyond Snow ont été présentés. Durant 3 ans, 10 destinations de l'arc alpin européen ont travaillé ensemble sur l'avenir des stations de ski. Elles ont réalisé l'importance de développer le tourisme 4 saisons. Quelques exemples avec le directeur du groupement suisse pour les régions de montagne, Thomas Seger.
Il y a par exemple toutes les activités culturelles qui sont aussi là, qu'on oublie souvent. Mais pour prendre aussi l'exemple de la destination de Sattelhochstuckli, qui était notre partenaire en Suisse, ils ont vraiment diversifié aussi l'offre, soit déjà en hiver, mais aussi en été, printemps et automne, avec par exemple des trail running qu'ils font maintenant. Alors vraiment quelque chose pour l'été, où ils font aussi un concours avec la compétition individuelle qui peut s'organiser soi-même. Donc c'est des petites activités, mais qui servent vraiment après à toute la destination, parce qu'ils doivent aussi emprunter les remontées mécaniques, etc. Et puis on voit que ça porte ses fruits, justement avec la destination de Sattelhochstuckli, parce que les dernières années, ils avaient toujours du déficit. Cette année, c'est la première fois qu'ils ont pris un gain.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vumier. Ce projet international a aussi montré que l'adaptation des stations de ski au réchauffement climatique nécessite un changement de mentalité, un processus de transformation profond et l'implication de tous les acteurs locaux. En tennis, Victoria Golubic a franchi le premier tour au tournoi WTA 250 à Osaka. La Zurichoise a battu la Canadienne Bianca Andreescu en 3-7, 6-3, 4-6, 6-4. La phase finale de la rencontre a été très disputée. Golubic a servi pour le match à 5-3, mais son adversaire a réussi le break. Cela n'a pas empêché la Suissesse de répliquer en prenant à son tour le service de la Canadienne pour enlever la partie. Au prochain tour, Victoria Golubic affrontera la Tchèque Marie Butskova.
Et en basket, le BBC Montéchablais court toujours après sa première victoire en championnat de SB League.
Les Sangliers se sont inclinés 91-86 samedi sur le parquet de Massagno, manquant une nouvelle fois son entame de match. Nous le savions, la saison s'annonçait compliquée pour les jaunes et verts. Problèmes financiers oblige, le comité a misé sur un effectif très jeune et n'a pas souhaité fixer d'objectifs précis en termes de classement. Le coach José González Dantas a ainsi pour but de faire progresser ses joueurs, un challenge qui lui plaît fortement.
Quand on avait discuté pour rester par là, on savait déjà la situation et voilà, et on savait déjà qu'on doit signer des joueurs jeunes. Et pour moi, ça c'est, j'aime beaucoup de travailler avec les jeunes parce que tu peux expliquer, ils ont l'envie, ils vont essayer d'aller à fond tout le temps et ils ont l'envie de progresser, ça c'est hyper important. Mais bien sûr, avec ils sont jeunes, ils ont le talent, mais ils doivent rester humbles pour travailler chaque jour et pour améliorer chaque semaine et pour essayer de meilleur, le meilleur possible pendant toute la saison et améliorer à la fin de la saison. Et mais pour moi, c'est hyper motivant parce que j'ai travaillé. Pour moi, c'est très important le travail que tu fais chaque jour. Mm-hmm. Pour moi, qu'est-ce que, pour améliorer, pour être meilleur joueur, c'est qu'est-ce que tu fais chaque jour. Ce n'est pas qu'est-ce que tu vas faire que pendant les matchs. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper motivant.
José González Dantas au micro de Thierry Nicolet. Le BBC Montéchablais se déplacera samedi à Neuchâtel pour tenter d'y décrocher sa première victoire de la saison.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.